Bonjour, vous allez bien? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Guenot, je suis stagiaire dans cette église. Je viens de finir mes études à la HET, anciennement Institut Emmaüs. Nous avons vu ce matin que Dieu est grand, qu'il agit, qu'il nous aime, que son nom est élevé au-dessus de tout. Est-ce que vous le croyez? Super! Je vais vous faire un petit récapitulatif parce que la prédication d'aujourd'hui s'inscrit dans un programme dont on vous a déjà parlé. Comme on a cette semaine de mission au mois d'octobre, on a prévu une série de prédications depuis fin juillet qu'on a commencé. Donc pour ceux qui étaient présents, ça fait un petit rappel. Puis pour les absences, ils savent un peu où on en est. Donc au mois de juillet, Nicolas nous a expliqué comment les regards de Dieu sur nous et nos propres regards sur nous-mêmes et sur les autres impactent nos vies. Ils peuvent les impacter de manière positive, mais aussi de manière négative. Un simple regard peut construire, mais aussi il peut détruire. Début août, je vous ai expliqué comment le Saint-Esprit nous donne des dons et des charismes naturels et spirituels, et comment il attend de nous que nous les utilisions. Nous avons aussi vu comment les servantes et les serviteurs dont le nom sont inscrits dans la Bible se sont positionnés pour servir Dieu malgré leurs défaillances. La plupart d'entre eux, enfin tous, avaient des péchés, vivaient des choses difficiles, et pourtant ils se sont positionnés. La semaine dernière, Nicolas nous a parlé de la force de l'adoption du Père envers nous. Comment cette adoption nous délivre, comment elle fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers du Christ. Grâce à cette adoption, nous devenons des êtres libres, nous ne sommes plus sous le joug de l'esclavage. Aujourd'hui, nous allons voir comment tout ceci nous unit les uns aux autres. Parce que l'idée de ces dons, de ces charismes, de cette adoption que nous recevons de la part de Dieu, n'est pas que nous restions tout seuls dans nos coins à faire notre petite salade, notre petit barbecue, à mener notre petite vie. Mais c'est vraiment, l'idée est vraiment que nous soyons unis les uns aux autres. L'Église est le corps du Christ. À l'intérieur de l'Église, il y a tout, les pieds, des bras, des doigts, des genoux. Et l'idée, c'est que nous nous unissions ensemble pour œuvrer et faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que dans la vie, nous ne réussissons pas seuls. Quand nous sombrons dans tout et n'importe quoi, que nous faisons des erreurs, quand nous tombons, nous ne tombons pas seuls, et quand nous ne réussissons pas seuls. Quand nous tombons, nous pouvons entraîner des personnes avec nous, ou nous pouvons nous laisser entraîner par quelqu'un d'autre. Et quand nous nous construisons, eh bien, nous entraînons avec nous aussi des personnes, et nous nous laissons entraîner par d'autres personnes. Ça va dans les deux sens. Que ce soit l'échec ou la réussite, on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un avec nous, dans un sens ou dans l'autre. Parce que Dieu utilise toujours des membres de notre entourage, des collègues, des connaissances, même des gens qu'on ne connaît même pas, pour nous propulser vers notre destinée. Et quand on doit traverser des déserts, quand on doit traverser la mer Rouge, quand on doit vivre dans des grottes pendant un certain temps, eh bien, Dieu utilise aussi des personnes pour nous accompagner dans ces moments-là. Et quand on se construit et qu'on grandit et qu'on va de mieux en mieux, eh bien, Dieu, là aussi, il utilise des personnes. Parce que si on regarde à Proverbe 27, au verset 17, il nous est dit « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit avec le fer. » Donc, l'homme, en tant qu'être humain, ne peut pas évoluer seul. Il grandit, il se développe, il apprend seulement lorsqu'il est en contact avec le groupe. Que ce soit le groupe familial, le groupe social, le groupe professionnel, le groupe amical, le groupe est porteur de vie, ou il peut être porteur de mort lorsqu'il est nocif. C'est le groupe qui permet d'évoluer ou qui au contraire nous enferme dans un découragement ou dans un désir de non-vie quelquefois. Au cours de ces différentes prédications, depuis un mois, nous avons vu à plusieurs reprises que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, verset 14, a écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Lorsqu'il nous a adoptés, Dieu a fait de nous des filles et des fils de Dieu. Bien-aimés, nous sommes filles et fils de Dieu. De ce fait, le Saint-Esprit nous a donné un cœur nouveau. Ce cœur nouveau dont parle le prophète Ézéchiel dans le chapitre 36, lorsqu'il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Lorsque nous donnons notre vie à Dieu et que Dieu nous donne une nouvelle vie, il change notre cœur. Il nous donne un cœur de chair et non plus un cœur de pierre dur. La semaine dernière, Nicolas nous parlait de la colère. Justement, ce nouveau cœur nous aide à sortir de cette colère destructrice. Lorsque nous choisissons de suivre Jésus-Christ et que nous le reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur, que nous l'acceptons dans notre vie, le Saint-Esprit nous adopte, il fait de nous des filles et des fils de Dieu et il nous fait une greffe de cœur. Il vient travailler là à l'intérieur de nous avec ses petits outils, bien aimants, bienveillants, et il nous fait une greffe de cœur. Je ne vous parle pas du cœur, le muscle là qui bat au rythme des heures et des secondes et qui nous fait vivre. Je vous parle de cette partie tellement précieuse à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de nos êtres, qu'elle nous fait ressentir l'amour de Dieu. Ce cœur qui nous permet de recevoir cet amour et de le redonner plus loin. Dieu nous donne un cœur nouveau, un cœur guéri, un cœur régénéré. Il nous le donne à tous parce que nous avons tous besoin d'un nouveau cœur. Alors des fois, certains disent « Oh non, moi j'en ai pas trop besoin, moi je vais bien, moi j'ai pas de soucis, tout est cool. » D'autres peuvent dire au contraire « Ah, moi j'en ai besoin encore plus que les autres. Double dose, triple dose, quadruple dose. » Certains peuvent même penser qu'ils sont des cas désespérés et que pour eux, Dieu ne peut rien. Mais Dieu ne regarde pas à tout ça. Il sait tout ça, mais il ne regarde pas à tout ça. Il nous donne à tous un cœur nouveau. Parce que lui, il sait toute notre histoire, il nous connaît, il sait ce que nous avons vécu, et même ce que nous, on ne veut pas regarder, même ce que nous, on ne veut pas parler, même ce que nous, on ne veut pas savoir, eh bien lui, il le sait. Dieu nous donne un cœur nouveau à tous et à toutes. Parce que tous nous sommes malades en amour. Dans les années, je ne sais plus, 70, quelque chose comme ça, il y avait un chanteur, Michel Sardou, qui chantait La maladie d'amour. Beaucoup des plus anciens la connaissent, et les plus jeunes peut-être pas. Mais la maladie d'amour est un mal qui provoque bien des dégâts. Et c'est un mal qui sévit encore à notre époque. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous l'avons vécu. Sinon, nous ne serions pas là aujourd'hui. Si nous n'avions pas vécu la maladie d'amour, si aucun de nous avait été aimé inconditionnellement, si tous nous avions été aimés inconditionnellement, si aucun de nous n'avait eu des blessures à cause de l'amour, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin de rencontrer cet amour inconditionnel de Dieu. Cet amour qui nous aime juste pour qui on est, malgré qui on est parfois. Nous avons tous besoin d'être aimés. Nous avons tous besoin d'aimer parce que nous avons tous besoin d'être en paix et d'être réconciliés. Réconciliés avec nous-mêmes, réconciliés avec les autres, réconciliés avec Dieu. Alors Dieu nous greffe un nouveau cœur. Et comme donneur, il nous a envoyé un être qui est 100% compatible avec tous autant que nous sommes. Il nous a envoyé Jésus, son Fils. Parce que lui seul est un donneur compatible avec tous et avec toutes. Personne ici parmi vous n'est incompatible avec le cœur de Jésus. Personne n'est incompatible avec Jésus. Quoi que vous ayez vécu dans votre vie, ou que vous en soyez dans votre histoire et dans votre vie, vous n'êtes pas incompatible avec Jésus, parce que Jésus est compatible avec tous. Sans la greffe de cœur de Jésus, nous mourrions tous dans le péché, en tout genre, dans le chagrin et dans tellement d'autres choses. Même dans le faux bonheur. Certains se bercent d'illusions qu'ils sont très heureux. Et ce n'est qu'une illusion. Parce que le manque d'amour ou le mauvais amour fait chaque jour des victimes dans notre monde. Vous pouvez ouvrir les journaux chaque jour. Vous allez voir des victimes en tout genre à cause de la maladie d'amour. Mais nous, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par le Père. Alors Dieu nous greffe ce cœur nouveau afin que l'amour qu'il nous donne, nous puissions le recevoir, nous en baigner, nous faire du bien avec et le redonner plus loin. Ben, c'est aussi le but. Ce cœur nouveau nous permet de nous construire dans une relation plus proche avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Il nous permet ensuite de nous aimer les uns les autres, ici, comme ça, autour, dans notre entourage, dans l'église, dans l'assemblée, nos amis, nos familles. Et il nous conduit à devenir des soutiens les uns pour les autres et à aller plus loin, porter son amour. Parce qu'il veut que nous soyons dans cette relation d'amour et d'unité les uns avec les autres. Si cette relation d'amour et d'unité les uns avec les autres ne se construit pas déjà à l'intérieur de l'Église qui est la maison de Dieu, elle ne peut pas se construire à l'extérieur. Elle se construit d'abord à l'intérieur parce qu'on est unis par un même esprit. Parce qu'on est les enfants, parce qu'on fait partie du corps. Si vous n'aimez pas votre pied, il ne va pas bien marcher. Si vous n'aimez pas votre main, elle ne va pas bien répondre. Si vous décidez que vous n'aimez pas votre dos, il va se tordre. Donc si on ne s'aime pas les uns les autres, si on n'apprend pas à s'aimer les uns les autres, le corps devient défaillant, il devient tordu et il ne peut pas aller plus loin et porter plus loin l'amour de Dieu. Nous aurons beau lire toute la Bible, nous aurons beau prier pendant des heures, nous aurons beau faire des belles louanges comme on l'a fait ce matin, si nous ne nous construisons pas les uns avec les autres, si nous n'apprenons pas à nous aimer les uns les autres, à rentrer dans cette unité les uns avec les autres, on sera comme des cymbales qui résonnent. On sonnera dans le vide. Cette semaine, j'ai rencontré un frère en Christ. On a échangé quelques minutes et il a eu une exclamation qui était en même temps une question qui m'a interpellée. Il m'a dit, mais Sylvie, la ville de La Chaux-de-Fonds compte environ 40 000 habitants. Sur ces 40 000 habitants, il y a environ 18 000 chrétiens. Pourtant, nos églises chrétiennes sont vides ou elles ne grandissent pas vraiment. Quel genre de chrétiens sommes-nous pour faire aussi peu envie à la population de la ville autour de nous? Ça m'a fait réfléchir. Comme j'étais en train d'écrire cette prédication, ça m'a fait réfléchir. Et ça m'a fait penser à un reportage que j'ai vu il y a quelque temps là sur la chaîne Arte, vous savez, la chaîne des reportages exceptionnels, Ce reportage était intitulé « Les secrets d'Icaria, une île grecque ». Icaria est une toute petite île sur la mer d'Égée. Elle fait partie des 5 zones bleues au monde qui sont célèbres pour la longévité exceptionnelle de sa population. Est-ce que vous imaginez déjà que dans tout le monde, et dans toutes les îles et les continents qu'il y a, il n'y a que 5 zones bleues qui ont cette exception d'avoir des gens qui vivent jusqu'à des âges avancés tellement que les chercheurs ils n'en reviennent pas. Donc, Icaria, cette île grecque, compte 8400 habitants. Sur ces 8400 habitants, un tiers, soit plus d'un tiers, soit environ 3000 personnes, sont nonagénaires, voire même centenaires. Des anciens qui vivent de manière totalement indépendante. Ils ne sont pas en EMS, ils ne sont pas dans des institutions, ils ne sont pas à ne pas pouvoir rien faire. La plupart d'entre eux ont une vie active. Il y en a un qui jardine, il y en a un qui aide à la ferme de ses voisins. Il y a même un centenaire qui fait les comptes, la comptabilité de l'hôtel que tient sa femme qui elle-même est nonagénaire. Ils sont en forme. On les voit là dans le reportage, ils sont en forme. Quel est leur secret ? Alors, ils vivent à la montagne, comme nous. Hein. Ils vivent dans les forêts. Ils ont une activité de basse intensité, donc pas trop fort, juste ce qu'il faut, une activité physique, juste ce qu'il faut. Une alimentation saine, beaucoup d'huile d'olive. Ils ne mettent pas de crème antiride. Ils vivent de manière simple, ils se contentent de peu. Ils sont un peu comme nous, non ? On n'est pas bien d'accord. Hein, ils ne sont pas tout à fait comme nous. Ils vivent tout ça de manière plus intense. Et les chercheurs, quand même, se sont penchés sur la question pour aller plus loin dans la réflexion. Et en fait, ils en sont arrivés à considérer que le plus grand secret de cette population, que cette longévité de vie, ils la doivent au fait que sur cette île règne l'entraide, le partage, la bienveillance, la joie et l'amour. C'est une population qui, même lors du dernier crash boursier, vous en avez entendu parler, quand la Grèce, ils ont fermé toutes les banques, les Grecs pouvaient plus retirer d'argent ni quoi que ce soit. Il y a des personnes qui sont mortes de faim, il y en a des qui ont tout perdu, ça a été la catastrophe. Eh bien, cette population n'a pas été touchée. Ils n'ont pas été touchés parce que ceux qui avaient des maisons ont accueilli ceux qui avaient perdu les leurs, ceux qui avaient à manger ont partagé avec ceux qui n'avaient pas, ceux qui avaient des jardins, ils se sont unis pour cultiver les jardins, ils se sont entraider. J'ai entendu une doyenne de 105 ans qui a déclaré « Il faut avoir en soi beaucoup d'amour ». Elle avait tout dit. Aujourd'hui, je vous pose et je me pose cette question. Nous qui sommes présents ici, nous qui sommes filles et fils de Dieu, nous qui sommes membres de cette église ou qui sommes visiteurs et qui venons d'autres églises, nous qui faisons partie de la communauté des chrétiens de la Chaux-de-Fonds ou de la région, nous qui avons et qui recevons cette si grande dose d'amour de la part de Dieu, est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à la partager ? Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à être bienveillants avec ceux qui nous entourent, avec les autres autour de nous, malgré leurs différences ? C'est une grande question. Hein ? Si demain, le crash boursier arrivait chez nous, que nos banques ferment, qu'on ne puisse plus rien faire, est-ce que nous serions prêts à partager ce que nous avons ? Avec ceux qui n'ont plus. Est-ce que nous serions prêts à partager nos repas, à accueillir des personnes chez nous, à distribuer les légumes qui poussent dans nos jardins ? Est-ce que nous serions prêts à partager avec les autres? Sur le chemin de notre destinée, nous rencontrons trois catégories de personnes. Ces personnes, c'est Dieu qui nous les envoie afin de nous rendre meilleurs, de nous faire grandir. La première catégorie, c'est les personnes qui sont au-dessus de nous. La deuxième, c'est ceux qui sont au même niveau que nous. Et la troisième, c'est ceux qui sont en dessous de nous. Je ne vous parle pas là d'être supérieurs ou inférieurs les uns aux autres. Il s'agit simplement du fait qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus expérimenté, plus mature, plus sage que nous, ou quelqu'un qui l'est moins. Ceux qui sont au-dessus de nous, qui sont plus avancés, qui sont plus sages, nous permettent de progresser. Ils nous permettent de grandir, d'avancer. Nous avons à apprendre d'eux. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous laisser remettre en question pour apprendre d'eux? Ceux qui sont au même niveau que nous, c'est plus facile avec ceux-là. Parce que ceux-là, ils nous permettent de nous motiver, de nous encourager mutuellement. On sait qu'on est au même niveau, il y a moins de rivalité. Et puis, il y a ceux qui sont en dessous. Ceux que nous sommes censés aider, que nous sommes censés inspirer, ceux que nous sommes censés influencer positivement, que nous devons encourager aussi pour qu'eux aussi puissent s'accrocher au Christ et avoir ce désir de le servir. Mais est-ce que nous sommes prêts à partager nos connaissances, notre savoir? Ou est-ce que nous les gardons comme des trésors? Est-ce que nous sommes prêts à partager ce que Dieu nous donne? L'amour, les biens, la bienveillance. Dieu nous a relevés. Est-ce qu'il nous a relevés juste pour qu'on garde le secret pour nous tout seuls? Ou bien est-ce qu'on est prêt à le partager et à aider d'autres à grandir avec ça? En tant qu'êtres humains, nous avons besoin les uns des autres pour devenir meilleurs, pour devenir des disciples toujours plus près et plus proches du cœur de Dieu. Mais sommes-nous prêts à nous aider les uns les autres? Sommes-nous prêts à tendre la main à celui ou à celle qui en a besoin? Sommes-nous prêts à prendre la main de celui ou de celle qui nous l'attend? Ou bien sommes-nous un peu orgueilleux en disant « mais j'ai pas besoin de ton aide » Ou bien sommes-nous un peu trop fiers en disant « oui, mais lui, il a qu'à se débrouiller ». Dieu façonne notre caractère, il façonne notre patience, notre mentalité, notre consécration à travers nos fréquentations, à travers nos relations, à travers les uns et les autres. Je vous parlais l'autre jour des dons naturels et des dons spirituels que Dieu nous donne. Il les façonne quand on se frotte les uns aux autres, que ce soit en bien ou que ce soit plus difficile. Tous ces dons sont comme ça... frotter et façonner. Dieu utilise les faiblesses des uns ainsi que les forces des autres pour nous instruire et pour construire son Église. Et comme dans la vie, nous ne réussissons pas seuls, dans l'Assemblée de Dieu, nous ne pouvons pas avancer seuls. Alors, non seulement nous devons laisser Dieu nous greffer un nouveau cœur, mais nous devons aussi avoir le désir de partager ce nouveau cœur avec les autres, de partager l'onction dont il nous a fait cadeau, de partager les connaissances, les compétences, l'amour dont il nous bénit chaque jour. Nous devons pouvoir partager tout ce que Dieu nous met dans notre cœur. Dans ce nouveau cœur qu'il nous a donné. Je sais, c'est pas facile, c'est pas évident. Nous avons des caractères et des tempéraments différents les uns des autres. Nous avons tous des histoires de vie différentes qui font que nous aimons ou que nous nous laissons aimer de manière différente. Nous avons des atomes crochus avec certains, nous n'en avons pas avec d'autres. C'est difficile. Il y a même un auteur, Gary Chapman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les cinq langages différents de l'amour ». Ça prouve que tous, autant que nous sommes ici, nous n'aimons pas de la même manière et nous n'aimons pas être aimés de la même manière. Mais on ne peut pas se contenter d'aimer ceux qui aiment comme nous et d'accepter ceux qui nous aiment de la bonne manière. L'important, c'est d'accepter qu'on est frères et sœurs, fils et filles de Dieu, et qu'ensemble, nous formons le corps du Christ. Et que cet ensemble, parce que nous nous aimerons les uns les autres, parce que nous porterons cet amour du Christ au milieu de nous, que nous pourrons aller le porter dehors, que nous pourrons toucher les gens de la rue, les quartiers autour, la ville, etc., etc., et le canton, et la Suisse, et l'Europe. Ah, on est en plein centre, après on touche. Si nous ne partageons pas avec les autres l'amour qu'ils nous donnent, nous ne serons jamais le sel de la terre que nous sommes censés être. Et si nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas le sel de la terre, alors qui le sera? Et si nous n'avons pas au milieu de nous cet amour et cette unité que doit avoir le corps du Christ, lorsqu'arrivera les derniers temps, la persécution, la tribulation, avant le retour du Christ, comment pouvons-nous espérer oser tenir, chacun dans notre petit coin, à faire sa petite sauce à salade et son barbecue? Bien-aimé, seul l'amour bannit la crainte. Et lui seul demeure jusqu'au bout. Lui seul peut nous amener à l'unité nécessaire pour que l'Église grandisse, pour que le corps du Christ grandisse. Je ne vous parle pas seulement en tant qu'Église de réveil, mais je vous parle en tant qu'Église du Christ. En tant qu'Église universelle du Christ, pour que le corps du Christ grandisse, chacun de nous a sa part à faire. Chacun de nous a sa part à donner. Chacun de nous a à aimer. Chacun de nous a à partager. Alors aussi, je vous invite, bien-aimés, à ouvrir vos cœurs à ce donneur universel qu'est le Christ Jésus. À laisser le Saint-Esprit vous greffer ce nouveau cœur, même si ça fait un petit peu mal des fois, hein, parce qu'on doit abandonner des trucs. Des fois, on en perd d'autres. Des fois, on a des personnes qui nous quittent. Mais quand même, ça en vaut la peine. Alors, je vous invite à laisser le Saint-Esprit vous greffer ce cœur de chair et à quitter vos cœurs de pierre pour avoir un cœur d'amour. Ce cœur d'amour que Dieu veut vous donner, afin que l'unité puisse remplir vos vies, celles de ceux des personnes autour de vous, et qu'elle puisse se répandre partout autour de vous et partout où nous irons. Amen. On va faire quelque chose maintenant. C'est vraiment sans obligation. Le but n'est pas de vous forcer, ni de vous obliger. Chacune des personnes ici présentes qui ce matin ont envie de répondre à l'appel de Dieu, même si vous l'avez déjà fait, mais qui avaient envie de répondre encore une fois à l'appel de Dieu. Si ce matin vous vous dites, mais moi je veux me lever, moi je veux servir le Seigneur, je veux le faire. Alors je vous invite à vous lever. On va se lever, on va se mettre debout dans la salle, comme ça on va quitter les rangs. Ceux qui veulent pas, vous n'êtes pas obligés, vous pouvez rester assis, il n'y aura aucun jugement sur vous. Pour certains, c'est pas le temps, pas encore. D'autres sont en préparation, d'autres sont nouveaux, il faut encore le chemin. Ceux qui peuvent pas se lever pour raison de santé, on va s'organiser. Les autres, je vous invite à vous lever et on va faire des choses très simples. Je vais pas vous dire de vous mettre par groupe deux ou trois parce que ça, c'est pas trop mon truc. Mais on va s'avancer comme ça et on va se mettre les uns à côté des autres. Si les personnes autour de vous sont d'accord, vous pouvez vous tenir la main. Vous pouvez poser la main sur l'épaule de quelqu'un. Si avec quelqu'un, vous avez envie de vous prendre dans les bras, vous pouvez le faire. Et on va debout tous ensemble chanter cette chanson a cappella, on va la faire. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour, Père, unis-nous.